Bonjour à toutes et à tous pour l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine. Et aujourd'hui, c'est Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix qui va assurer tout seul cette heure d'information et de débat un petit peu sur la Palestine. Et je vais commencer, ce qui n'est pas usuel, par lire le dernier communiqué de l'Union juive française pour la paix, parce qu'il dit bien l'horreur médiatique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On en est à 500 jours après le début d'un génocide et les médias n'ont pas changé. Voilà le communiqué que nous avons sorti il y a quelques jours. Ça s'appelle « Que sont nos médias devenus ?» C'est un petit peu un clin d'œil à la chanson de pauvre Rudebeuf. En 1944, le Conseil national de la Résistance proclamait le pluralisme des médias français. On en est de plus en plus loin. La grande majorité des médias privés appartiennent à 7 milliardaires qui sont tous dans le même camp. Et les médias publics ont été progressivement nettoyés de toute voix dissidente. Dès le 7 octobre 2023, une seule parole a été autorisée, celle des génocidaires. La fake news des femmes éventrées et des bébés décapités a continué à être diffusée alors qu'il n'y avait plus aucun doute possible. La seule question qu'on avait le droit de répondre était « Est-ce que vous condamnez le terrorisme du Hamas ?» Ces médias à la botte portent une responsabilité énorme dans un génocide qui a tué des dizaines de milliers de Gazaouis, dont une majorité de femmes et d'enfants. Pendant plus d'une année, ils n'ont rien vu et rien entendu, ni les immeubles et leurs habitants pulvérisés, ni les civils palestiniens exécutés sommairement. Ils ne nous ont pas dit que des prisonniers ont été torturés. Ils n'ont pas exprimé de réprobation quand les manifestants israéliens ont bloqué des camions d'aide humanitaire, quand des dirigeants politiques israéliens ont déclaré qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, et quand ils ont donné l'ordre de tuer les femmes et les enfants. Ils nous ont à peine dit que des hôpitaux ont été rasés ou que des soldats se sont filmés jouant avec des jouets d'enfants ou des sous-vêtements pris dans des maisons détruites. Rien n'a changé. Dès la signature de la trêve, on aurait pu croire que ces médias allaient enfin renouer avec un minimum de professionnalisme et d'objectivité. Pas du tout. L'exemple suivant est plus qu'affligeant. Le 25 janvier dernier, France Info TV diffuse un bandeau sur l'échange entre 4 soldates israéliennes détenues à Gaza depuis le 7 octobre et 200 palestiniennes et palestiniens. Le bandeau qualifie ces derniers d'otages palestiniens. Tollé immédiat. Tout de suite, Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, dont bon nombre d'électeurs sont des colons israéliens, alors que la colonisation est illégale selon le droit international, sonne le tocsin en qualifiant le bandeau, entre guillemets, d'indécent, abject et inacceptable. Elle le qualifie d'injure à ce qui fait notre humanité. La direction de France Info a instantanément obéi aux ordres des relais du gouvernement israélien. Elle a parlé d'erreurs inadmissibles. Elle a présenté des excuses. Et surtout, le responsable de cette erreur a été suspendu. L'UJFP se permet donc de donner quelques leçons basiques de déontologie à la direction de France Info. Depuis 1967, 900 000 Palestiniens ont connu la prison, c'est 40% des hommes entre 18 et 50 ans. Vous ne saviez pas ? Parmi les prisonniers palestiniens pour lesquels vous refusez le terme « otage », il y a de nombreux enfants âgés souvent de 12 à 14 ans et condamnés pour jet de pierre. C'est contraire au droit international. Vous ne saviez pas ? Les Palestiniens dépendent de la justice militaire. S'ils ne plaident pas coupables, la peine est beaucoup plus lourde. Vous ne saviez pas ? Un tiers des prisonniers palestiniens sont en détention administrative. Ils n'ont jamais été jugés et leur peine peut être reconduite plusieurs fois. Vous l'avez dit à vos auditeurs ? La Cour suprême israélienne a légalisé la, entre guillemets, « torture raisonnable », pour reprendre les termes officiels. Cette information vous a-t-elle échappé ? Parmi les otages palestiniens libérés, il y avait Khalida Jarar, députée du FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, plusieurs fois en détention administrative et sortie très affaiblie de sa dernière détention. Vous n'avez pas vu les images ou vous avez refusé d'en parler? La prison de Sdeh Tayman est décrite comme le Guantanamo israélien. Les photos de prisonniers, ligotés et les yeux bandés, sont visibles partout. Plusieurs sont morts sous la torture. L'information ne vous est pas parvenue? Israël refuse de libérer des prisonniers emblématiques, comme Ahmed Sadat ou Marwan Barghouti. Ce dernier a été sévèrement battu en prison. Toujours un trou de mémoire pour en parler? Vous n'avez jamais parlé du plus vieux prisonnier politique palestinien délocalisé en France, le communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah, en prison depuis 41 ans, au mépris total du droit international et dont la libération est, une fois de plus, ajournée. Il vous manque des journalistes pour travailler sur ce scandale? Vous avez repris, sans les commenter, les fake news de Benjamin Netanyahou, accusant le Hamas d'avoir tué Shiri Bibas, alors qu'il n'y a strictement aucun doute. Elle et ses deux bébés sont morts dans un des innombrables bombardements sur Gaza. 50 000 tonnes de bombes, la nouvelle a dû elle aussi vous échapper. Et il est miraculeux qu'il n'y ait pas eu plus d'Israéliens tués, vu la violence des bombardements aveugles. Vous ne vous faites même pas l'écho des familles israéliennes qui accusent Netanyahou d'avoir délibérément sacrifié leurs proches. Votre conduite est l'un des éléments de l'effondrement moral en France et dans d'autres pays qui rappelle à l'Union juive française pour la paix, association juive antisioniste, l'effondrement moral de la France en 1940. Cette confiscation d'une véritable information alimente la montée du néofascisme. Vous portez une lourde responsabilité. C'était le communiqué de la Coordination nationale de l'Union juive française pour la paix le 25 février dernier. Et je voulais dire que, hélas, ça continue. Là, j'enregistre en différé. On est pour moi le 26 février. Et aujourd'hui, toutes les radios officielles, dont France Info, ne parlent que d'une seule chose, les obsèques des victimes israélienne, donc Shiri Bibas et ses deux enfants, avec la douleur des Israéliens. Pas un seul mot sur le fait qu'ils ont été tués par des bombes israéliennes. Un Israélien opposant a dit « Vous avez fait une minute de silence pour Shiri et ses deux bébés. Si vous faites l'équivalent pour les 18 000 enfants palestiniens qui sont morts à Gaza », c'est une semaine de silence que vous devez faire. Bien évidemment, cette échelle-là a complètement échappé à France Info et à tous les médias officiels. Donc, c'était la première chose que je voulais vous dire. On est 500 jours après le 7 octobre, dans la même situation de confiscation complète de l'information, de criminalisation du soutien à la Palestine, d'informations confisquées. Sur la criminalisation de la Palestine, je voulais dire que je me suis déjà retrouvé à deux reprises comme témoin dans des procès, je vais bientôt l'être une troisième fois. Tous les inculpés, tous les gens poursuivis depuis le 7 octobre sont des soutiens à la cause palestinienne et ont le gentil défaut d'être, comme on dit, d'apparence musulmane. Et Abdel, à Montpellier, a été condamné extrêmement sévèrement, y compris en appel, à un an de prison avec sursis, une énorme amende, 3 ans de privation des droits civiques, le blocage du compte bancaire, pour avoir déclaré que le 7 octobre était un acte héroïque. Il a bien précisé à son procès qu'il disait, le 7 octobre, il parlait du fait que les Palestiniens avaient cassé la barrière de haute technologie qui fait le blocus depuis maintenant 17 ans. Ça fait rien, il a été condamné à 17 ans. J'ai été témoin à Nice pour une Sarah qui avait traité quelqu'un de sioniste de merde. Alors de merde, c'est pas mon vocabulaire, mais j'ai témoigné sur sionisme et ça a été hallucinant. Le président du tribunal a commencé par expulser une jeune femme qui avait un fichu sur la tête en lui disant « Pas de ça ici, non mais où est-ce qu'il se croit ?» Et quand j'ai commencé à expliquer d'un point de vue juif ce qu'était le sionisme, il m'a coupé en disant que j'étais hors sujet et je n'ai pas pu continuer mon témoignage. J'espère que pour mon troisième témoignage, ce sera un peu plus brillant. Je voulais vous parler de la situation à Gaza parce que les médias n'en parlent plus, comme si les choses étaient dans un état normal. Je voulais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie d'avoir plus de 2 millions de personnes qui vivent après des bombardements qui ont rasé 80% des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des routes. Ben à Gaza, on a eu cette scène à la fois enthousiasmante et à la fois faisant énormément peur de cette marée humaine quittant les tentes de Al-Mawasi et de Deir el-Balah pour repartir vers le nord principalement, mais pas uniquement. C'est plus d'un million de personnes qui se sont mis en route vers ce qui était leurs habitations autrefois. Et ce qu'ils trouvent, dans la plupart des cas, c'est des endroits inhabitables. C'est pas seulement inhabitable parce que tout a été écroulé. À la limite, quand tout a été écroulé, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, on plante une tente à côté, mais c'est plus terrible que ça. D'abord, dans les débris de leurs anciennes maisons, on n'arrête pas de trouver des cadavres. Le ministère de Gaza ne recense que les corps qui ont été trouvés et identifiés. Et depuis le retour des réfugiés vers ce qui était leur maison, on est passé de 46 000 corps identifiés et retrouvés à plus de 48 000. Et tous les jours, on trouve des nouveaux cadavres et il faut tout un travail pour arriver à les identifier. Et vous le savez, le journal scientifique The Lancet estime que la statistique actuelle devra être augmentée très sensiblement, ils disent d'au moins 40%, pour avoir le nombre réel de morts. Il est probable que ce génocide, on approchera, voire on dépassera les 100 000 morts. Mais il n'y a pas que les scènes de désolation, il y a la question des pénuries dans la plupart des endroits, sauf peut-être dans quelques quartiers assez rares de Gazaville, c'est toute l'infrastructure qui a disparu. Donc il n'y a plus d'électricité, parce qu'évidemment, tout ce qui était les centrales électriques ou même les fournitures d'électricité à partir de panneaux solaires ou de petits réservoirs de fuel qui permettaient d'avoir de l'électricité, tout ça, ça a disparu. Donc on se trouve, on est toujours en hiver, dans des endroits où il y a 14 heures de nuit, la plupart du temps, dans l'obscurité, où il n'y a pas moyen de conserver de la nourriture. On se trouve avec des convois d'aide humanitaire qui continuent à être bloqués en grande masse, et c'est un nombre très très insuffisant de camions qui rentrent. L'UNRWA a été passablement démantelée par le gouvernement israélien. Elle a de plus en plus de mal à fournir la nourriture qui arrive à rentrer. Heureusement, la société civile de Gaza ne s'est pas écroulée. Il y a des services qu'elle continue à assurer, mais c'est difficile. En plus, la situation a provoqué, comme dans toutes les guerres, comme dans toutes les situations catastrophiques, l'apparition de profiteurs de guerre, l'apparition de mafias, des gens qui ont attaqué les camions, qui ont rançonné, qui ont essayé de profiter en revendant à prix très, très élevé la nourriture qu'ils avaient volée. Et comme il n'y a plus d'appareil d'État pour faire régler un minimum de sécurité, la population doit souvent se débrouiller par elle-même. Et en ce moment, il y a un froid terrible à Gaza. Il y a eu la nuit dernière, donc la nuit du 25 au 26, et j'ai reçu les nouvelles ce matin, un froid absolument terrible, et donc énormément de gens qui sont morts de froid, notamment des prématurés et des nouveau-nés, parce qu'il n'y a pas les structures pour les maintenir au chaud. Il n'y a pas suffisamment de couverture. Dans les tentes, l'air froid s'engouffre. Il n'y a pas de chauffage. Donc on a une situation qui va provoquer de nombreux morts, pas tués directement par les bombardements ou par les snipers israéliens, mais tués par les conditions. Il y a également une situation dans beaucoup d'endroits qui est proche de la famine. Notre représentant à Gaza, Abou Amir, nous a fait passer des témoignages de femmes qui décrivent les situations totalement humiliantes dans lesquelles elles se trouvent, n'ayant rien et devant mendier pour que les enfants ne meurent pas de faim. La plupart de ces femmes ont perdu leur mari dans les bombardements, se retrouvent seules, à la fois sans protection, sans intimité et sans les moyens de nourrir correctement leurs enfants. On va faire une première interruption de musique.
Sous les vitrines illuminées de ma première enfance, ruisselante toute d'innocence, dans les films technicolores dont on nous inondait, tes exploits terrorisent. Tu étais des Chiricahua, sans nul doute le meilleur soldat. Rien que ton nom faisait trembler du Mexique à l'Arizona. Il t'appelait pillard, traître ou bandit, Geronimo le maudit. Et nous, on préférait Carson ou Cassidy. Toi t'étais le mauvais, celui qui ne se rendait jamais, toujours à galoper. Ton couteau éclatant attirait comme un aimant les scalps ébouriffés. Des centaines de Mexicains ont trouvé la mort grâce à tes soins. Les Yankees n'attendaient plus rien quand ils tombaient entre tes mains. Ils te craignaient comme peste et incendie, Geronimo le maudit. Et nous, on préférait Custer ou Bill Cody. Quand Cochise dans son tipi fumait le calumet, marchant dans sa liberté. Toi au cœur de la Sierra Madre tu t'enfonçais pour mieux te cacher. Les soldats des États-Unis te poursuivaient le jour et la nuit. Ces longs couteaux traquaient partout la crinière de ton cheval pis. Les mules et les chevaux t'avaient suivi, Geronimo le maudit. Car l'hiver était plus rude pour toi que pour Cody. Quand dans la réserve de San Carlos ils t'ont bouclé, t'arrachant ta liberté, ils t'avaient promis bétail et terres à volonté pour mieux te tromper. Ils t'ont donné un lopin juste assez pour mourir de faim. Quant au bétail, il engraissait les fonctionnaires, leurs hommes de main. Tu n'as pas pu supporter cette vie, Geronimo le maudit. Attiré par de nouveaux combats, tu es reparti. Les colons déferlaient dans votre prairie par milliers, avides de tout posséder. L'or, l'argent, le cuivre, les bisons, les forêts, ils n'ont vraiment rien laissé. Après vous avoir décimé, vos ennemis vous ont soumis. Sioux, Apaches et Cherokee ont péri petit à petit. Ne crois surtout pas que les tiens t'oublient, Geronimo le maudit. Y'a pas si longtemps qu'on tirait
à Wounded Knee.
Y'a pas si longtemps qu'on tirait à Wounded Knee.
Voilà, si j'ai voulu que vous entendiez cette chanson, Geronimo, qui a plus de 50 ans, c'est le groupe Imago, ben c'est parce qu'il y a évidemment un rapport énorme entre ce qu'ont subi les Amérindiens aux États-Unis et ce que subit aujourd'hui la Palestine. Dans les deux cas, il s'agit d'un peuple autochtone et d'un peuple qu'on veut faire disparaître. Et ben les Amérindiens, hélas, s'ils n'ont pas disparu, ils ne sont plus en situation de réclamer leurs droits. Ils ont été enfermés dans des réserves. Et ça, c'était le projet initial des sionistes quand ils sont arrivés en Palestine, que le peuple autochtone disparaisse. On disait jamais les Palestiniens, on disait les Arabes. Donc ils partent, il y avait des projets de les faire partir en Irak, un peu partout, ou qu'ils soient enfermés dans leurs réserves. Et quelque part, Gaza, c'est le modèle de la réserve indienne. Voilà, en même temps, c'est un petit clin d'œil, parce que vous connaissez sans doute les deux films extraordinaires que Roland Nury a fait sur la Palestine, Le Char et l'Olivier, et il y a la Gaza. Et il est en train d'en faire un troisième qui portera justement sur le parallèle entre les Amérindiens et les Palestiniens. Donc voilà, dans une France qui nie aussi les droits du peuple autochtone en Kanaky, ça me semblait utile de rappeler ça. Je vais maintenant parler de Donald Trump. Tout le monde aura entendu tous les jours ce qu'il a pu sortir. Un jour, c'était le Canada, 51e État des États-Unis. Le Danemark, sommet de donner le Groenland, puisque tout le monde sait qu'il y a des métaux et des terres importantes au Groenland que l'entrepreneur Donald Trump voudrait exploiter. Un troisième jour, c'était le canal de Panama. Et sur la Palestine, il a déclaré tout de go que tous les Palestiniens devaient partir en Égypte ou en Jordanie et qu'il allait transformer Gaza en Riviera pour riches touristes. Alors on pourrait s'en moquer, sauf que c'est le président de la plus grande puissance du monde. Si il y a bien des propos qu'il sort qu'il n'a pas les moyens d'appliquer, il y a toujours des conséquences dans ses propos. Et il faudrait les examiner sur ce qui se passe en Palestine. La première idée, c'est Trump, cette fois-ci, c'est pas seulement une déclaration profondément raciste et anti-palestinienne qu'il fait sur la Riviera. Il met en danger grave deux de ses meilleurs alliés dans la région, qui sont l'Égypte et la Jordanie. L'Égypte, il faut savoir, bien avant le 7 octobre, elle avait plus ou moins dans l'idée qu'un jour, elle donnerait quelques arpents de désert du Sinaï pour appeler ça un proto-État palestinien, masquant le fait qu'Israël allait annexer tout le reste. On le sait parce que, je vous l'avais déjà dit à Radio Galère, le 7 octobre 2023, on était au Caire. On sait que la ville égyptienne de Rafah a été évacuée il y a 2-3 ans de ses 80 000 habitants qui ont été relogés dans les trois grandes villes du canal de Suez, Port Saïd, Ismaïlia et Suez. Plusieurs villages autour de Gaza ont également été évacués. Et donc, cette idée de que tout le No Man's Land qui était au sud de Gaza, ce serait un proto-État palestinien où on mettrait la population expulsée de Gaza, il a existé. On nous en avait même parlé quand on est à Gaza en 2016. Il y a des gens qui avaient évoqué cette idée-là. Sauf que dès le 7 octobre, il y a eu au Caire une manifestation, la première depuis le coup d'État de Sissi, 2013, avec en plus à la tête de la manifestation les rabbins antisionistes des Netore Carta. Bon, c'était la première grande manifestation depuis le début de la dictature. Il y a eu une manifestation encore plus importante à Alexandrie. Sisi a vu que la cause palestinienne restait extrêmement populaire dans la population égyptienne et que s'il rentrait dans le marché de Trump d'accepter des centaines de milliers de Gazaouis en Égypte et en plus dans le Sinaï, il allait sauter, il allait lui arriver le même sort qui était arrivé au président Sadat qui avait normalisé ses relations avec Israël en 78-79 et qui est mort assassiné 3 ans plus tard. Donc le refus de Sisi pour l'instant est assez total. Est-ce que il cédera? Pour céder, évidemment, les États-Unis ont des moyens de pression. Ils donnent $1 milliard par an à l'Égypte, mais ce milliard de dollars peut tout à fait être compensé si les pays arabes se décidaient à remplacer les États-Unis. Donc pour l'instant, mais on va voir, les choses peuvent évoluer, l'Égypte va refuser de se faire harakiri comme Trump le suggère. Pour la Jordanie, c'est sans doute encore pire. C'est-à-dire que la Jordanie, actuellement, il y a un peu plus de 55% de Palestiniens pour 40% de Bédouins. Mais les Bédouins, c'est ce qui fait le régime. Le régime du roi, il est entièrement basé sur le soutien des tribus bédouines. Il est évident que si 1 million de Palestiniens en plus arrivent en Jordanie, l'État explose. Les équilibres sont totalement rompus et c'est le régime jordanien lui-même qui sera en cause. Donc il n'a absolument, lui, aucun intérêt, malgré les pressions, à suivre les rodomontades de Trump. Le roi Abdallah est allé à Washington. Il s'est fait recevoir comme un chien, assez humilié. Mais il a dit à Trump qu'il ne pouvait pas. Et il est rentré bredouille, évidemment. Mais dans les circonstances actuelles, on ne voit pas la Jordanie accepter ce genre de choses. Tout va évidemment dépendre maintenant du monde arabe. Il doit y avoir une réunion de ce qui reste de la Ligue arabe très bientôt, qui va porter sur la Palestine. Et quelque part, ce monde qui est complètement dirigé maintenant par les États féodaux, patriarcaux, pétroliers, esclavagistes du Golfe, qu'est-ce qu'ils vont décider sur la Palestine? Je fais l'hypothèse qu'ils ne pourront pas accepter l'ultimatum de Trump. Il y en a un seul qui, pour l'instant, l'a accepté, c'est les Émirats Arabes Unis, mais eux, déjà, ils étaient allés le plus loin possible dans la collaboration, puisqu'en plein génocide à Gaza, leur ministre des Affaires étrangères avait déclaré « ce qui se passe à Gaza nous pose un problème, mais nous saurons le surmonter ». Donc c'est vraiment les collabos des collabos. Donc savoir que le modèle qui a été construit dans les pays du Golfe, avec cette tour de 750 mètres à Dubaï et avec l'argent du pétrole qui est réinvesti dans les pires aventures capitalistes, ça aboutit bien sûr à la complicité totale dans le génocide des Gazaouis. Mais Dubaï, ils sont assez peu impliqués. Dubaï, en plus, ils risquent pas grand-chose parce que c'est 15% d'hommes libres et 85% d'esclaves là-bas. L'Arabie Saoudite, c'est autre chose. Il y a encore une majorité de citoyens en Arabie Saoudite, même si le nombre d'esclaves est assez important. C'est elle, in fine, qui va devoir prendre la décision. Pour l'instant, elle a dit qu'elle ne normaliserait pas avec Israël tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. On ne sait pas ce qu'elle entend par État palestinien. Surtout qu'en ce moment, est à l'œuvre, en plus du génocide à Gaza, quelque chose de terrible qui est en train de se passer en Cisjordanie. C'est l'autorité palestinienne qui avait commencé à attaquer le camp de Jenin en tuant un résistant, une journaliste. Et après, c'est l'armée israélienne avec les tanks qui a envahi le camp de Jenin. C'est bien pire encore que l'attaque qui avait eu lieu en 2002, qui avait tué une centaine de personnes, qui avait détruit le camp. Là, plus de la moitié des maisons du camp ont été détruites. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées. La volonté des Israéliens, c'est d'évacuer totalement le camp de Jenin et de le faire disparaître. Et parallèlement à cette attaque terrible, il y a d'autres camps qui sont attaqués ailleurs, en Cisjordanie. Donc, on voit bien qu'en même temps que Gaza est terriblement attaquée, il y a aussi une attaque sur la Cisjordanie et les pays arabes vont devoir gérer. Est-ce qu'on collabore à une nouvelle Nakba ou est-ce qu'on l'enraye ? Alors, l'enrayer comment ? Là aussi, on ne sait pas. Il y a une hypothèse que les pays arabes, donc pays féodaux du Golfe, prennent la main sur le gouvernement palestinien, mais on ne voit pas très bien avec qui, à part à Gaza avec le mafieux Mohamed Dahlan. Et en même temps, la population de Gaza ne les accueillera pas. Il faut comprendre que à Gaza, la société civile ne s'est pas écroulée. Il faut comprendre qu'à Gaza, je donne un exemple, quand les Israéliens ont eu peur que l'épidémie de polio qui commençait à Gaza continue avec une épidémie de polio en Israël, ils ont autorisé l'OMS à vacciner les enfants gazaouis. En 5 jours, c'était fini. Et pourquoi c'était fini ? Parce qu'il y avait partout une organisation sociale dans les camps, il y avait toujours un ministère de la Santé et que la société ne s'était pas écroulée. Donc cette société, elle va réclamer, et nous devons être à fond avec elle, que la reconstruction de Gaza, ce soit elle qui la dirige et qu'elle ne soit pas dirigée de l'extérieur comme a été dirigée la reconstruction mafieuse de Beyrouth après la guerre civile libanaise. Donc il y a un vrai enjeu. On ne sait pas ce que les pays arabes vont décider. On ne sait pas ce que Israël et les États-Unis vont en dire. Et on ne sait pas quelle va être la réaction de la société palestinienne. Mais nous, on a toujours été pour la défense totale de la société civile palestinienne dans toute son intégrité. Je vais parler maintenant de Georges Abdallah, parce que ce ne serait pas possible de nier ce qui arrive à Georges. Georges, vous le savez, est en prison depuis octobre 1984. Ça veut dire on est dans la 41e année. Il devait être libéré le 20 février et le jugement qui a été pondu par le tribunal d'appel est assez ahurissant. Il ne s'oppose pas formellement à la libération, mais il demande que Georges indemnise ses victimes. Alors déjà, ses victimes, Georges, il n'a tué personne, c'est les Farl, dont il était un des dirigeants, qui ont tué un agent de la CIA, Charles Schley, et un agent du Mossad, Igor Barsimentov. Georges, il a bien sûr dit que jamais il n'indemniserait, il ne donnerait le moindre argent à un pays qui arme des génocidaires pour tuer à la fois des Palestiniens et des Libanais. En plus, il n'a pas travaillé en prison pour avoir l'argent qui servirait à ça. Donc ça veut dire que c'est bloqué. Il reste une possibilité dont on ne sait pas à l'heure où je vous parle si elle va être utilisée ou pas. C'est que, d'après l'avocat Georges, Monsieur Chalancé, Georges serait d'accord pour que ce soit l'État libanais qui paie ce qui est demandé par le tribunal. Alors l'État libanais, il n'a pas un rond. L'État est en banqueroute. Son armée, par exemple, elle est financée par le Qatar parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer une armée. Mais au Liban, toutes les factions qui ont participé aux 15 ans de guerre civile sont toutes d'accord pour que Georges rentre chez lui. Il n'y a pas d'opposition à ça. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. On le saura sans doute dans quelques jours. Mais en tout cas, Georges, quoi qu'il arrive, ne sera pas libre avant le mois de juin s'il est libéré et véritablement honte à la France, pseudo-pays des Lumières, pseudo-pays des droits de l'homme, qui a le prisonnier politique le plus ancien d'Europe. Je cite, parce que ça me fait toujours marrer, tellement c'est juste, des phrases de Georges, j'en cite plusieurs. il y a quelques jours, il me téléphone et il me dit « Tu as vu ces centaines de milliers de Gazaouis qui rentrent vers le nord? Ils ne vont pas faire une nouvelle Nakba ?» Je lui disais « Oui, tu sais, Georges, mais ils vont trouver des zones inhabitables. C'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils rentrent et que ça met en échec le projet de les expulser. » Autre parole de Georges, je crois que je vous en avais déjà fait écho, quand il avait été interrogé par le juge « Qu'est-ce que vous pensez du Hamas ?» Il avait répondu « Ce sont des communistes, c'est vraiment dommage, ce sont des résistants, c'est vraiment dommage que ce ne soient pas des communistes. » Je partage totalement ce jugement. Et puis, il y a quelques années, quand je demandais à Georges, on imagine que les Palestiniens gagnent et que ça se termine par un nettoyage ethnique à l'envers. Qu'est-ce que tu en penses? Et réponse instantanée de Georges, alors on aura perdu. C'est un vrai communiste et c'est un vrai internationaliste. Et donc, plus que jamais, la libération de Georges, c'est une priorité absolue. On va passer une deuxième musique.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon, aux Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Voilà, après vous avoir parlé de Georges Abdallah, je ne pouvais pas... J'étais obligé de mettre après une chanson révolutionnaire, donc c'est une chanson de la Commune de Paris. Les deux grands écrivains de chansons de la Commune de Paris, c'est Eugène Potier qui a fait l'International, et là c'est Jean-Baptiste Clément, La Semaine Sanglante. Et en même temps, mettre une chanson révolutionnaire, c'est parce que ce que font les Palestiniens aujourd'hui nous concerne si on veut changer cette société un petit peu démente. Et il faut véritablement avoir conscience que défendre la Palestine et défendre nos libertés, c'est le même combat. Je vais terminer en vous parlant de livres. Moi-même, en ce moment, je diffuse mon dernier livre du projet sioniste au génocide. Et j'ai déjà fait plusieurs présentations à Marseille, à la librairie Transit, à Mille Babord. Il y en a d'autres qui sont prévus. Mais il y a un autre livre qui sort dont je ne suis qu'un des nombreux auteurs, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ce livre s'appelle « Gaza, mort, vie, espoir ». Il va sortir en principe le 17 avril aux éditions Rive-Neuve. Si vous allez sur le site de l'Union juive française pour la paix, ujfp.org, vous pouvez le précommander. C'est... L'éditeur incite à ça, ce sera à la fois moins cher et en même temps, pour lui, ça lui donne des assurances. Mais bon, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que ce livre va se diffuser. Il est écrit par 5 militantes et militants français. Il y en a 4 de l'UJFP, qui sont... Non, 3 de l'UJFP, pardon, qui sont Sarah Katz, qui a vécu... 2 ans à Gaza, qui était sur la flottille de la liberté en 2018, qui est l'auteur d'un documentaire qui s'appelle « Aimer la mer à Gaza ». Il y a Béatrice Aurès, qui est une des coprésidentes de l'Union juive française pour la paix. Il y a moi-même, donc ça c'est les 3 auteurs de l'UJFP. Il y a 2 autres auteurs français. Il y a Brigitte Chaland, qui est de Montpellier, qui a été plusieurs fois en Palestine et notamment à Gaza, et qui popularise tout ce qui se passe à Gaza sur des médias indépendants, ISM France, Alter Midi, Le Point. Et il y a Kamel Elias, qui est un agronome français d'origine palestinienne et qui est en plus le seul arabophone dans notre groupe, mais en même temps un grand spécialiste de l'agriculture, puisque ce qu'on a fait à Gaza touche beaucoup la solidarité avec les paysans. Et le 6e auteur, c'est notre représentant à Gaza, c'est Abou Amir. Ce livre va comporter énormément de photos documentées. Certaines sont antérieures au début du génocide, le 7 octobre 2023. La plupart sont ce qui se passe depuis 2023 et on les a documentés par thème. Et il y a énormément de textes, une mise en perspective évidemment de ce qu'est Gaza, de ce qu'était Gaza avant, de tout le travail de coopération que l'Union juive française pour la paix a fait principalement avec les paysans de la bande de Gaza depuis 2016. Et qui ont abouti à des constructions assez emblématiques, le château d'eau de Houza, la pépinière solidaire, la maison des paysans, tout ce que les Gazaouis ont construit avec l'argent qui avait été collecté, a été détruit par les Israéliens. Il n'en reste plus rien, mais nous allons bien sûr recommencer. Et surtout, pendant toutes ces années-là, nous avons acquis une assez grande expérience de ce que peut être une coopération non colonialiste et non paternaliste. C'est-à-dire que dans ce qui s'est passé depuis 2016 et ce qui continue à se passer depuis le 7 octobre, les Palestiniens expriment leurs besoins les plus urgents. Ils discutent avec nous des projets qui sont réalisables. Ils rédigent ces projets. Nous, nous cherchons à collecter l'argent, à l'envoyer et à populariser, après, par diffusion sur nos sites, ce que les Palestiniens ont fait avec l'argent envoyé. Depuis le 7 octobre, l'Union juive française pour la paix a envoyé plus de 500 000 euros. Pour une petite association comme la nôtre, c'est colossal. Évidemment, ça ne plaît pas à nos ennemis. Notre compte bancaire a été fermé, mais nous en avons un autre. Et nous allons continuer à collecter l'argent et à l'envoyer à Gaza. La coopération ne s'interrompra pas. Ce que le livre décrit, c'est à la fois, donc j'ai dit avant, le travail de solidarité avec les paysans, avec les pêcheurs, avec une association d'éducation populaire qui s'appelle Ibn Sina, c'est à Vicennes. Et depuis le 7 octobre, il a fallu réagir dans l'urgence. Il a fallu, avec le déclenchement en plus de l'hiver de l'année dernière, se procurer en urgence, et ça nous a coûté très cher, des tentes, des couvertures, des bâches, des vêtements chauds, des chaussures. Il a fallu en urgence creuser des sanitaires. Très rapidement, les camps de toile ont été envahis par les eaux usées. Il a fallu les désinfecter, lutter contre les ravageurs, lutter contre les insectes. Ça aussi, ça nous a coûté extrêmement cher. Et puis, rétablir des semblants de vie quotidienne, procurer de quoi chauffer, du gaz aux familles. Nous nous sommes adressés à plusieurs milliers de familles, principalement autour des paysans qui avaient fui la zone de Houza, mais aussi des familles dans le nord et aussi des familles à Rafah. Il a fallu organiser des repas, et pour les familles de paysans, ce sont 3 repas hebdomadaires depuis maintenant plusieurs mois que nous arrivons à assurer pour 1800 familles. On en est assez fiers. Dès le mois de juin a été entrepris la rescolarisation des enfants. Alors pas tous les enfants, hein, jusqu'à l'âge de 13 ans, mais c'est déjà énorme, avec principalement des cours d'arabe, de maths, d'anglais et de sciences. Et on a jumelé avec l'enseignement scolaire un soutien psychologique aux enfants, dont un certain nombre sont orphelins, dont tous sont énormément traumatisés par la vie sous la tente, par les pertes familiales, par les bombardements incessants. On a organisé aussi des ateliers de soutien psychologique, et on a séparé pour les femmes qui supportent l'essentiel de la détresse de la population palestinienne, parce qu'elles doivent assurer la survie de leur famille, souvent très seules, et parce qu'elles sont privées de ce qui était le lieu où elles pouvaient exercer normalement le soutien à leur famille, les maisons. Et les hommes aussi ont demandé un soutien psychologique, parce qu'eux-mêmes ont réalisé qu'ils devenaient violents, qu'ils étaient complètement aussi traumatisés. Et voilà, il y a ces séances de soutien psychologique séparées pour femmes, pour enfants et pour hommes. Et puis on en est très fiers, les paysans, là où c'était possible, principalement dans la zone de Deir el-Balah, ont commencé à recultiver la terre. Il y avait un marché noir terrible des prix des denrées élémentaires, dont notamment les légumes, qui avaient atteint des prix absolument inatteignables pour la population. Grâce aux paysans qui ont pu recultiver, à nouveau, des légumes sont vendus à des prix accessibles pour tout le monde. Voilà, tout ça, c'est décrit avec la parole des Palestiniens, qui expriment à la fois ce qu'ils ont réalisé avec ce qu'on a pu envoyer, les réactions des populations qui ont été touchées par cette solidarité, tout ce qui est fait là-bas à Gaza est fait avec le logo UJFP. Quand les gens demandent qu'est-ce que c'est qu'UJFP, Abou Amir ou le Marcel d'Ibn Sina explique c'est l'Union juive française pour la paix, c'est une association juive française antisioniste. Et donc quelque part, un bureau de l'UJFP existe totalement légalement maintenant à Gaza, reconnu par la banque Al-Quds sur laquelle nous faisions nos virements. Et puis en même temps, il y a dans le livre des analyses politiques que font nos correspondants. Je terminerai en donnant juste un exemple. Quand on demande à Abou Amir qu'est-ce que tu penses du mandat d'arrêt lancé contre Netanyahou par la CPI, la Cour pénale internationale, et Abou Amir répond, ben d'un côté, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne nous ont pas oubliés, il y a des gens qui comprennent la douleur extrême dans laquelle nous vivons, qui sont solidaires de nos peines, de notre détresse et de notre sort, et en même temps, ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de sanctions et les Israéliens continuent de nous bombarder, de nous tuer, de détruire toutes nos infrastructures et de nous affamer. Donc en même temps, ça signifie bien que une partie de cette guerre se joue chez nous et se joue par notre capacité à obliger nos gouvernements complices à enfin sanctionner l'occupant. Merci. Shalabi